On s'emploie pour vous, fait sa rentrée. On est très heureux avec Alexandra d'être à nouveau avec vous pour parler d'emploi, pour parler de travail, pour parler de certains secteurs qui sont un peu en difficulté, mais tout cela malgré tout avec le sourire. Aujourd'hui, on s'est dit, on va vous emmener au spectacle. Mais vous le savez, depuis quelques mois, le spectacle, c'est un petit peu difficile d'y aller. Quoique, ça repart. Et on est très heureux d'en parler avec nos invités. Sylvie Chauchois, qui est la directrice du Zénith de Strasbourg Europe. Et Tom Matisse, chanteur, à la fois en France et en Allemagne. On va pouvoir discuter justement pour voir si ça se passe mieux ou moins bien de l'autre côté du Rhin. Mais on se retrouve après un générique de circonstance, puisque c'était le générique de mon Zénith à moi. Et avant d'accueillir nos invités, de discuter avec eux des problématiques liées au monde de la culture en cette période un petit peu particulière, le mot du président, sauf ce mois-ci puisqu'il est en voyage officiel à l'étranger et vous prie d'accepter ses excuses pour son absence. Sylvie Chauchois, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour Alexandra.
Merci. Bonjour Tom.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Coucou Alex. Et
ça va bien? T'as vu les têtes d'affiche que l'on a là?
Ah bah, tête d'affiche, c'est le cas de le dire, puisqu'on va parler de culture avec une question très bête pour commencer. Question à tous les deux. Comment ça va?
Eh bien, je dirais que ça va mieux, puisque c'est la reprise, ça reprend tout doucement, on sent les ventes frémir, et on fait notre premier spectacle dimanche avec Christophe Maé, qui va nous rouvrir la saison après 18 mois de fermeture.
Oh, Christophe Maé, tiens, et Tom Matisse.
Surtout Tom Matisse, moi Christophe Maé, voilà, c'est personnel. Sylvie, 18 mois, ça représente quoi quand vous regardez en arrière?
Mais c'est marrant parce qu'on a l'impression quand même qu'on a oublié qu'on avait une attestation, qu'on ne pouvait sortir qu'une heure. On oublie quand même assez vite et sans doute, heureusement pour nos esprits, mais il a fallu être couteau suisse pendant 18 mois, s'occuper de tout, puisque mon personnel était au chômage partiel. Moi, je travaillais une partie du temps, j'étais pas à 100% non plus. Et il a fallu gérer le bâtiment, gérer les reports, gérer la communication. Enfin, un gros boulot, c'est-à-dire faire à un ce qu'on faisait à six.
Sans oublier qu'un bâtiment comme un Zénith... immense, avec beaucoup de techniques à l'intérieur. Quand ça ne s'utilise pas, ça s'use tout aussi vite, voire plus vite que quand ça s'utilise.
Oui, c'est le deuxième effet qui se coule. On ne sait pas quand on commence à rallumer un peu les boutons à droite et à gauche, les chaudières, les chasses d'eau. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont cassées, qu'on est obligé de réparer. On est obligé d'anticiper. On a la légionellose qui s'est développée dans les tuyaux. Bon, maintenant, c'est propre, c'est sain, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à réparer. Oui, ça vieillit très vite.
Et le mental à réparer aussi de toutes ces équipes, de toutes ces personnes.
Oui, c'est ce qui sera le plus difficile, je pense, auprès des permanents du Zénith. Bon, nous étions 6, nous ne sommes plus que 4 déjà. Et aussi les prestataires, parce qu'on ne sait pas si la boîte de sécu va retrouver son personnel, si les bars, on va retrouver les barmans qu'on a formés, les hôtesses, pareil. Donc les techniciens qui ont changé, qui ont changé d'orientation, qui ne veulent plus travailler le soir, plus travailler le week-end. Le monde a changé, vraiment.
Donc, quand on le dit, c'est pas juste une formule. Le monde a vraiment changé.
Oui, oui, on le sent vraiment dans le spectacle, oui, on le sent.
Tom, premier concert pour vous, c'était il y a quelques jours seulement. C'était après combien de temps d'arrêt de votre côté?
Bah, pareil, plus de 18 mois d'arrêt de spectacle, que ce soit du côté allemand ou du côté français. Hein. Et c'est vrai que ça a fait vraiment plaisir de retrouver la scène à Mons-Villers dimanche dernier avec plus de 700 personnes, du coup. Et on a ressenti vraiment ce besoin et cette affection, en fait, avec le public, qui avait vraiment envie de s'éclater de nouveau et puis de retrouver cette ambiance de concert.
Qu'est-ce qu'on fait quand on est chanteur pendant 18 mois et qu'on est confiné à la maison? On écrit, on chante, on imagine ou on se dit stop?
Bah, je dirais que ça dépend un peu des personnes. Moi, c'est vrai que j'en ai profité beaucoup pour composer des nouvelles chansons, un nouvel album aussi qui est prêt depuis presque 2 ans et on attend un peu le feu vert pour sortir l'album et le promouvoir. Donc j'ai beaucoup avancé sur les projets musicaux et en parallèle j'ai également mon activité professionnelle, donc c'est vrai que ça m'a permis de m'occuper encore bien et puis je me suis aussi beaucoup ressourcé avec ma famille tout en travaillant sur les projets passionnants quoi.
On s'évade alors quand on a un deuxième boulot, c'est plus facile ou pas quand on est justement dans la chanson, dans la musique, ça a aidé ?
Il y a du pour et il y a du contre. C'est vrai que moi, la musique, pour moi, c'est une vraie passion et je me bats pour que ça reste une passion. Et c'est pour ça que j'ai voulu toujours garder mon travail, en fait, pour avoir l'aspect financier, pécunier, en fait, d'un point de vue travail et d'un point de vue musical, c'est plutôt la passion. Il y a du pour, du contre. Il y a des fois, c'est vrai que ça fait énormément de charges de travail parce qu'on finalement, j'étais au Danemark il y a 2 semaines, donc j'ai posé congé au boulot pour aller partir au Danemark, tourner une émission télé. Le studio, souvent c'est le soir, du coup, donc il y a moins de temps libre aussi. Et puis les week-ends sont comme dimanche à Montzuïlère, ben je suis sur place le matin à 11h pour faire les premiers réglages et puis je rentre à 22h le soir et je retourne au travail le lundi. Donc ça a du pour et du contre, mais c'est vrai que j'ai fait ce choix volontairement pour vraiment vivre de ma passion.
Sylvie, une question justement sur le sujet par rapport à l'ensemble des collaborateurs ou des prestataires. Quand on parlait de changement, ça veut dire des gens qui ont complètement changé d'activité, qui se sont dit bon ben stop, là c'est trop, parce qu'on a eu un premier confinement, d'accord, très drastique, très difficile, puis on a eu une petite étape, un petit septembre où on pouvait y croire encore. Et après, que sont-ils devenus ?
Alors, nous, on n'a pas vu les petites étapes. Hein, c'est-à-dire que l'arrêt, il a été, pour le spectacle, il a été violent. Pendant 18 mois, on a fermé. On a réussi à faire, en septembre l'année dernière, une manifestation avec toi, le job dating, donc dans le hall. On a reçu 2000 personnes. On a ouvert un petit bout du zénith, mais les équipes artistiques, les techniciens n'étaient pas là. Alors, ils ont pris goût à être à la maison, à s'occuper des enfants, à les emmener à l'école, avoir un rythme de vie régulier, de ne pas rentrer à 3h, à 4h du matin complètement cassé par le montage, le démontage, le show. Voilà, et donc il y a eu des possibilités pour eux d'intégrer un autre espace, un autre métier, de développer d'autres activités. Et c'est vraiment ce qu'on ressent, c'est le confort de la vie. Je pense que cette période a donné envie de profiter de la vie différemment et d'avoir plus de confort.
Je vais me faire l'avocat du diable. Vous êtes directrice du Zénith. Vous recevez, vous accueillez, vous rencontrez des stars tout au long de l'année. Vous, Tom, vous faites des télés dans toute l'Europe. Ce sont des métiers de rêve. Pourquoi se plaindre ? C'est la question quand même qui a été très entendue, notamment lorsque les intermittents ont perçu des aides. Beaucoup de gens n'ont pas compris et ne comprennent pas forcément que c'est toute une économie, la culture. Ce n'est pas juste quelques azous qui font de la guitare.
La culture, l'économie de la culture représente plus que que l'industrie automobile en France. Il faut savoir que quand on reçoit effectivement Christophe Maé dimanche après-midi au Zénith, vous avez le matin à 6h une équipe qui a monté la technique, qui a déchargé le camion, qui a monté sur la scène. Donc là, on va avoir 20 rôdes, on va avoir 2 régisseurs, on va avoir 15 personnes de la production qui va descendre du bus et qui est arrivée la veille peut-être d'Amnéville. Et puis ensuite, tout au long de la journée, ça va se dérouler. Et à partir de 4h après-midi, l'artiste va arriver avec son staff, son administrateur, sa maquilleuse, enfin voilà, il a du monde avec lui. Et puis après, la salle va aussi recevoir son personnel, donc les barman, la sécurité, les hôtesses. C'est vraiment c'est une industrie. Moi, je suis vraiment dans l'industrie du spectacle, et sur un spectacle comme Christophe Maé, on va être en tout dans les coulisses pour travailler une petite centaine. Donc ce sont des aspects que le public ne se rend pas compte. Hein. Le public arrive à 20h, il profite du spectacle et il ressort, il consomme. Mais nous, quand le public repartira à 22h, nous, on aura un démontage jusqu'à 3h. Et on préparera la salle pour le lendemain, parce que le lendemain, on a Hans Zimmer. Et là, on reçoit 100 personnes dans le backstage. C'est une jauge à 7000 personnes. Donc la salle va être reconfigurée pour passer de 3000 à 8000 personnes. Donc c'est un vrai métier.
Une vraie fourmilière.
Oui.
Ouais, tout à fait. Et puis je rejoins tout à fait Sylvie à ce propos. En Allemagne, il y a eu beaucoup de manifestations aussi par rapport au monde de la culture, parce que c'est un gros employeur en fait, hein, le monde du spectacle, parce que là on voit le côté scénique du Zénith forcément et toutes les équipes qui travaillent autour. Mais il y a aussi point de vue projet artistique, toutes les personnes qui derrière sont dans les studios d'enregistrement, les techniciens également qui sont dans les studios, les labels, les maisons de disques. Enfin, il y a vraiment beaucoup de branches qui sont touchées, le marketing, la communication, enfin, beaucoup, beaucoup de gens qui sont touchés dans ce milieu, quoi.
En Allemagne, justement, comment ça s'est passé par rapport à la France? Est-ce que ça a été moins difficile ou plus difficile pour toutes ces personnes œuvrant dans la culture?
Je dirais, au niveau européen, en règle générale, c'était un petit peu les mêmes décisions qu'en France, quoi. En Allemagne, ils ont encore été moins aidés parce que le régime de l'intermittent n'existe pas. Donc, c'est tous des sociétés, en fait, hein. Donc, ils ont eu beaucoup, beaucoup moins d'aide et de support là-dessus. C'est ce qui a créé d'ailleurs de nombreuses manifestations avec de nombreux artistes et de nombreuses personnes dans la branche. Donc là, ça y est, on revoit tout doucement des concerts qui se redessinent un peu partout. Là, quand j'étais au Danemark, c'est vrai que on a eu la chance de plus porter le masque.
C'est vrai que le Danemark a pris des mesures très libérales ces derniers temps.
Donc c'est vrai que ça fait du bien, ça donne un nouveau souffle et ça motive à nouveau toutes les personnes dans le milieu, quoi.
Ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que il y a deux sortes de spectacles en France. Il y a le spectacle que l'on dit subventionné et le spectacle privé. Bon, le Zénith, c'est une entreprise privée qui gère pour le compte de l'Eurométropole un bâtiment et qui programme et qui gère son exploitation. Donc nous, on a eu des aides du ministère de la Culture et puis l'Eurométropole nous a aidés aussi beaucoup. Mais en comparaison du théâtre, du TNS ou de l'opéra, ils ont des subventions à l'année. Et donc, eux, ils ont pu se permettre en juin d'annoncer la saison. Quand vous regardez les brochures culturelles de la rentrée, vous voyez apparaître toutes les salles qui sont subventionnées parce qu'elles savaient qu'elles allaient avoir les recettes et les subventions pour pouvoir financer leur programmation. Et moi, je ne suis absolument présente nulle part parce que j'étais pas sûre de pouvoir jouer, j'étais pas sûre de pouvoir ouvrir. Et donc, je ne pouvais pas dépenser d'argent pour annoncer à Christophe Metz si j'étais pas sûre qu'ils viennent. Donc, c'est vraiment deux mondes différents, c'est deux cultures différentes.
Et c'est à préciser. Est-ce que vous êtes touché, en plus de la Covid, par le Brexit? Puisqu'il y avait des rumeurs, des on-dit, sur une difficulté plus grande des artistes anglo-saxons à cause du Brexit à venir se produire en Europe. Ou bien est-ce que là, ça s'est un petit peu atténué?
Bah, je ne l'ai pas senti encore, parce que le Brexit est arrivé au moment aussi...
C'est les deux sont arrivés en même temps.
Comme j'ai fermé, je ne l'ai pas ressenti pour le moment.
Et les artistes, est-ce qu'ils sont en confiance, les personnels techniques, vos personnels, avec le pass sanitaire? On sait que certaines personnes sont contre. Il y a des règles qui sont imposées au Zénith?
Alors oui, c'est la bataille du pass sanitaire. Donc nous, en tant qu'exploitants de salle, nous sommes responsables du contrôle des personnes qui rentrent dans le bâtiment. Dès le matin à 6h, tous les techniciens seront scannés, hein, ils présenteront leur QR code. Et puis on aura aussi le QR code de l'artiste à faire scanner.
C'était la question, justement, est-ce que l'artiste... je suis la star, moi.
Non, il va pas passer à travers. Et s'il a pas son pass sanitaire, on va le renvoyer vers la première pharmacie. Hein, Mais je pense que s'il se présente à un backstage et pour monter sur scène, c'est qu'il est en règle.
A priori.
Oui.
Et là, ça a changé quelque chose par rapport aux réservations. Bon, Christophe Maé, ça faisait plus d'un an qu'on l'attendait. Ça change quelque chose en matière de réservation, de billetterie, ce fameux pass sanitaire?
Oui, les gens qui ont acheté un billet, effectivement, il y a 2 ans, qui n'ont pas de pass sanitaire, ne se présentent pas. On est à peu près à 15% de nos shows par date, apparemment, depuis ce qui s'est produit, depuis début septembre, sur les dates qui ont déjà joué dans les salles.
Et toi, Tom, tu l'avais senti vraiment dans ton public, ce besoin de pass sanitaire ou
Alors le pass sanitaire, de toute façon, c'était la règle aussi dimanche dernier. Donc la buvette était en extérieur aussi. Donc c'est vrai que ça fait moins de gains aussi pour l'organisateur parce que finalement la buvette, elle se concentre en 20 minutes de pause à l'extérieur. Donc c'est vrai que c'était complexe à ce niveau-là. Après, je dirais Mondswiller, ça a été reporté aussi. Deux fois, il me semble. Donc, pareil, deux fois les coûts d'affiche avec différentes dates, les réservations à gérer.
Les remboursements aussi.
Les remboursements. Et donc, on a quand même réussi à remplir bien la salle parce que c'était des billets vendus. Après, c'est vrai que les nouveaux concerts qui entrent en programmation, là, c'est un peu plus compliqué pour l'instant.
Plus compliqué parce qu'on a du mal à anticiper ou...
Déjà la période de décision entre la décision ou entre l'organisateur qui décide réellement de faire l'événement là à partir du mois d'octobre, finalement il le communique assez sur du court terme, on va dire. Donc il y a d'une part cette partie là et je sais pas si après il y a encore la confiance des gens de ressortir. Après, moi, c'est vrai que j'ai un public quand même qui est relativement âgé, on va dire.
Merci pour moi. Voilà.
Oui, moi, Alexandra, je suis ton public. Hein.
Non, non, mais non, il faut le dire, il y a quand même dans votre public des personnes plus jeunes qu'Alexandra.
Aussi.
Merci, Emmanuel.
Donc, pas le sanitaire. C'est vrai qu'il faut redemander, il faut, il faut que le public reprenne confiance. Il faut qu'on leur donne confiance. C'est-à-dire, venez au Zénith, allez dans les salles de spectacle. Je pense que nous sommes des espaces qui avons le plus appliqué les gestes barrières et les gels. Et, enfin, voilà, ça fait longtemps qu'on applique ces règles. Avant même qu'elles soient obligatoires au mois d'août, nous, en juin, elles étaient obligatoires.
Un mot sur ce no-show, 15%, vous disiez en moyenne. Est-ce que la personne peut se faire rembourser si elle n'a pas, j'aurais tendance à dire
elle
non,
peut se faire rembourser, oui, absolument.
Si elle décide de ne pas se faire vacciner, oui, ou de ne pas se faire trifouiller le nez, mm-hmm, elle peut demander.
C'est oui, oui. D'accord. Aujourd'hui, la personne qui a un billet, Christophe Mahé, Alexandra, si tu veux pas venir dimanche parce que t'as si, pas si. Ton pass sanitaire,
je pourrais venir, moi.
Tu peux te faire rembourser, voilà, jusqu'à dimanche.
D'accord.
Donc, vraiment, on sent, alors, Sylvie, vous en parliez tout à l'heure, on parlait de tout cet écosystème qui gravite autour du Zénith, on parlait des buvettes, des vendeurs, des petites choses alimentaires. Comment on va faire le Zénith? Parce qu'on n'a pas le droit à l'intérieur de boire, de manger, ou si on peut quand même l'appliquer?
Ah oui, si, les restrictions, il n'y a plus de restrictions alimentaires en fait, comme dans un restaurant. Donc les gens ont le droit d'acheter une bière, de consommer un sandwich, une knack, il n'y a pas de souci de rentrer dans la salle. Le port du masque est obligatoire, jusqu'à fin septembre, c'est une décision préfectorale. Mais si la personne boit un coup, elle a son masque, elle le remet après.
Comme quand on recommence à vivre.
On recommence tout doucement à vivre. Alors vous disiez, Sylvie, sur le plan de l'emploi, que beaucoup de personnels techniques ont décidé de vivre une autre vie. Ailleurs, est-ce que ça veut dire qu'il y a des postes à pourvoir dans votre secteur ?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir chez les intérimaires, les sociétés d'intérimaires. Nous travaillons avec deux entreprises, nous, principalement Gésime. Donc il y a des postes à pourvoir, oui, il faut s'y rendre. On prend des manutes, on prend des hôtesses, on prend des barman. Et puis je pense que le métier d'intermittent aussi demande des hommes et des femmes. Donc il faut s'enseigner, oui.
On sent vraiment qu'il y a de nouveau des demandes sur être intermittent, être dans le monde du spectacle. Vous le sentez, vous recevez par exemple, vous, au Zénith, des CV?
Ah oui, beaucoup, très régulièrement. Donc un CV de technicien son, je vais le renvoyer sur des prestataires de son et lumière qui travaillent avec nous régulièrement, par exemple. Mais on est très sollicités, évidemment, oui.
Et justement, ces prestataires, alors moi j'en connais quelques-uns, où ça a été quand même une année aussi difficile.
Plus que terrible.
Et comme tu dis, plus que terrible, on en a vu disparaître, malheureusement. Et je tenais quand même à dire, parce que Sylvie, elle a été quand même très, 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 très proche de ses prestataires, à souvent prendre des nouvelles et à voir comment est-ce que ça allait et à les soutenir moralement. On sent là qu'ils reprennent actuellement.
Ils sont tous très contents de revenir dimanche ils paniquent aussi un peu, ils ont peur d'avoir oublié, ils ont peur que les équipes qu'ils ont pu garder, les 60% de permanents qu'ils avaient, est-ce qu'ils auront encore les réflexes, former les nouveaux aussi qu'ils ont dû recruter.
Ah, c'est pas comme le vélo, hein. S'oublier.
Oui. C'est vrai que même moi, en tant qu'artiste...
La main, je la mets où sur la guitare?
Les automatismes, le contact du public, l'échange, etc. C'est vrai que c'était... C'est une épreuve, quoi.
On pense aussi à tous ces musiciens qui accompagnent, qui, eux aussi, se sont retrouvés donc à ne plus savoir quoi faire.
Oui, et beaucoup d'artistes, il faut le reconnaître, parce qu'on parle souvent de l'égoïsme des stars. Beaucoup d'artistes, que ce soit en France ou à l'étranger, ont pris la parole durant les différents confinements en disant « Moi, je suis tranquille. Moi, je vends mes disques, je suis partout. Je gagne mon argent, mais pensez à mes musiciens. » Eux, ce n'est pas la même chose, tous ces musiciens d'accompagnement.
C'est vrai. Oui, on en a vu beaucoup qui sont mis à donner des cours à des jeunes. D'ailleurs, tant mieux, parce qu'ils ont eu cette chance
exactement.
De pouvoir travailler avec de grands artistes, de grands musiciens. Sylvie, quand on parlait reconversion de collaborateurs, de personnel, est-ce qu'on peut aussi parler de reconversion du Zénith? Vous le disiez très justement, on a fait un job dating, ce qui était quand même une première. Maintenant, le Zénith s'ouvre ou était déjà ouvert à autre chose que de la musique, des artistes?
Alors, on a un cahier des charges très précis qui date de 1980, puisque le Zénith est né avec Jack Lang et François Mitterrand. Donc, on a un cahier des charges très précis qui nous oblige à faire au moins 70% de musique dans notre programmation. Donc, on a toujours été ouvert aux événements économiques. Là, à la fin du mois, on fait un salon du vin et de la gastronomie, par exemple. Et cette semaine, j'ai un gros événement avec des chefs d'entreprise. Mais on n'en fait pas publicité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas. À Strasbourg, il y a donc la maison GL, hein, avec le Parc Expo, qui eux, c'est leur cœur de métier. Moi, mon cœur de métier, c'est le spectacle. Maintenant, si on nous sollicite, si on vient nous voir, on loue le Zénith pour faire des événements économiques.
Est-ce que vous avez déjà eu des demandes de location de Zénith très insolites ?
Bon, on nous a déjà demandé le Zénith pour un mariage. Voilà, donc on refuse parce que c'est pas du tout notre métier. Et voilà, il y a bien d'autres gens qui savent mieux faire ça que nous. Et puis on a assez de boulot, je dirais.
J'imagine bien. Vous évoquiez les prestataires, les partenaires, toutes ces personnes qui font la fourmilière qui est un Zénith. L'équipe Zénith Strasbourg Europe, c'est combien de personnes ?
C'est 4 permanents.
4 permanents ?
C'est 4 permanents.
Ce qui n'est pas beaucoup quand on voit l'immensité du site.
La crise nous a fait perdre deux permanents, donc nous ne sommes plus que 4. Et j'ai un régisseur général qui maîtrise le bâtiment et la préparation des techniques. J'ai un administrateur qui concentre toute l'administration, les contrats, la compta, les bons de commande. Ensuite, une personne un peu polyvalente, communication, exploitation, voilà, qui touche un peu à tout, les écrans, le marketing, et puis moi qui supervise le tout et qui met la main à la pâte à tout. Je peux pas rester dans ma tour d'ivoire et je suis sur le terrain, voilà, en permanence.
Oui, donc une TPE avec un esprit familial. Oui. Donc j'imagine que là, ces mois ont été très difficiles sur un plan plus personnel.
Oui, régulièrement on était en lien, on faisait des WhatsApp et c'était difficile pour eux, mais comme pour tout le monde, ça a été difficile. Enfin, il y en a qui étaient contents d'être chez eux et de ne rien faire et d'être payés, hein, mais c'est pas l'état d'esprit de mon équipe en tout cas.
Alors, petite question justement. On parle souvent, hein, on n'a pas forcément besoin de diplôme pour faire partie du monde du spectacle. C'est vrai, c'est faux?
À l'époque où j'ai démarré, il n'y avait pas d'école. Aujourd'hui, il y en a. Je pense que c'est bien de passer par les écoles quand on veut être technicien, son, lumière.
Oui, passer voilà. Beaucoup plus technique, beaucoup plus poussé. Oui. Aujourd'hui aussi, il y a du numérique qui rentre en jeu aussi.
C'est nécessaire, oui.
Après, je pense que chacun peut, s'il s'intéresse aussi et il s'implique dans tout ça, je pense qu'il peut être formé par un technicien pro, quoi.
Alors, on dit souvent, hein, nos enfants, on les voit entre Voice et plein de télé-réalités, justement, qui veulent être chanteurs. C'est un métier qui vous est venu comme ça, Tom? Je me suis dit, tiens, un matin, je me lève et puis je serai chanteur.
Bah non, après la musique, c'est vrai que je l'ai depuis tout petit, hein. J'allais avec mon père à l'harmonie, on faisait de la musique, donc j'ai grandi avec la musique, mais j'ai toujours eu une attirance pour la scène aussi, donc j'ai fait presque 10 ans d'orchestre dans toute l'Alsace, la Lorraine, qui était d'ailleurs une très très bonne école, hein. On apprend beaucoup de choses justement d'un point de vue technique, parce qu'on installe la scène nous-mêmes, on la démonte, que ce soit les lumières, le son, le réglage du son de la salle, etc. Et en plus d'un point de vue physique aussi, parce que finalement on joue de 20h à 3h du matin à peu près, toute la nuit, on chante et on démonte encore la scène, on range, il est 6h du matin, on rentre à la maison et on joue des fois encore le dimanche. Il y avait à peu près 50 dates par an, quoi, avec l'orchestre. Donc ça, c'était une très très bonne école. Et puis à un moment donné, en fait, j'ai voulu me lancer en solo un peu plus parce que je cherchais un peu plus mon univers musical, j'avais envie de composer mes chansons. Et puis j'ai été repéré par un producteur allemand qui m'a inscrit...
Impresario.
Ouais.
Oula.
Oh là là.
Est-ce que ça se dit d'avant. Encore
non,
ouais.
Non,
voilà. C'est fini. Les galas et les impresarios. Hein.
Voilà,
on a l'impression aujourd'hui, c'est comment pourrait-on appeler l'impresario? L'agent.
Oui, l'agent.
C'est ça. Ouais,
c'est ça.
Qui est impresario, attaché de presse, homme de confiance, ouais, un petit peu tout.
Ouais.
Ou le manager, hein, tout simplement.
Manager aussi.
Beaucoup de choses. Hein. C'est vrai que le manager, le producteur, plus l'équipe de com et de marketing, finalement, ça englobe beaucoup de personnes, hein, derrière un album. Hein. On est à peu près, moi, pour ma part, avec mon label, on est 5-6 personnes, quoi, à gérer un peu le projet, plus le booking, les contrats, l'administratif, etc.
Et comment on sait qu'on a une jolie ou une pas jolie bonne voix ou mauvaise voix?
Je je dirais que c'est pas que la voix qui compte. Il y a beaucoup aussi de personnalité, hein, qui est très important en tant que chanteur. Donc c'est vrai qu'il y a la voix, la justesse qui est important. Il y a la phase musicale aussi, les instruments, certains savent jouer, certains pas. Voilà, c'est des aspects auxquels le public s'attache. Et je pense que c'est aussi beaucoup la personnalité et l'équipe qu'on a autour qui nous aide à développer la carrière, à booster la carrière, parce que c'est beaucoup de relationnel aussi, beaucoup de bouche à oreille.
Appréhender la scène, le live, le rencontre avec le public, c'est pas évident, ça se travaille aussi.
Ça se travaille aussi, ouais. C'est des heures de répétition. Et puis, une fois qu'on se sent à l'aise et qu'on se sent bien aussi avec ses chansons, ben c'est là où c'est beaucoup plus facile.
Oui, une question à tous les deux concernant ce métier de manager au sens très large du terme, de l'expérience que vous avez, l'un comme artiste, l'autre comme responsable de salle. Est-ce que pour faire un bon manager, il faut avoir de bonnes capacités de métier sans être spécialement fan de l'artiste? Au contraire, il faut d'abord être fan de son artiste?
Je pense qu'il faut pas être fan de son artiste. Faut pas monter dans le bus. Enfin, moi, c'est toujours ce que je me suis dit. Ne pas être fan pour rester froid, rester objectif et au-dessus de la mêlée. Enfin, ça, c'est mon sentiment.
Ouais. Sentiment que je partage pour avoir rencontré quelques managers qui se prennent un peu plus pour des stars que leur artiste.
Ouais, après, je pense que le manager doit quand même être plus ou moins impliqué dans le projet de l'artiste. C'est-à-dire qu'il doit. Qui doit quand même soutenir l'artiste aussi. Alors des fois les managers managent aussi peut-être deux artistes différents. Donc pour moi c'est important quand même.
Il peut être un peu aussi un contrepoids à l'artiste par moment vis-à-vis du public.
Exactement. Et c'est aussi des fois le manager qui nous permet d'avoir un œil extérieur aussi. Parce que des fois on est dans notre bulle en tant qu'artiste et puis.
Mais est-ce qu'il ose dire, le manager, est-ce qu'il ose dire, bah là, c'est pas vraiment...
Oui, quand même, enfin, ça, après, ça dépend du statut du manager, mais quand il accompagne un projet comme un album, par exemple, en plus du côté live, hein, je parle, il est souvent exécutif manager aussi, et donc c'est lui, finalement, qui décide aussi si cette composition, elle lui convient, il y voit un tube ou pas un tube, enfin, il donne quand même son avis, enfin, pour ma part, en tout cas.
Sylvie, est-ce que vous profitez des spectacles au Zénith? Vous avez le temps d'en profiter?
Non, j'ai pas le temps. On peut croire qu'on boit du champagne dans les loges avec les artistes, mais non, on a vraiment
ça pas.
Ça
vous est quand même arrivé une fois, rassurez-moi.
Avec Sting, oui.
Voilà, tout de suite avec Sting.
Il est vol.
Voilà.
Il m'a dit, oh Sylvie, et il m'a pris dans ses bras et j'ai bu un coup avec lui. Voilà, non.
Bon, c'est vrai on en reparle tout à l'heure pour le prochain concert.
Non, je vais pas beaucoup dans les loges. C'est leur endroit. C'est privatisé. Je j'aime pas y aller. Enfin, et bon, évidemment, je croise des artistes parfois, mais au catering, je dirais à la pause. Mais au moment où l'artiste monte sur scène, nous, on a fait en sorte, l'équipe du Zénith, que tout roule. Une fois que l'artiste est sur scène, on a rempli notre contrat. Et donc, on essaie d'aller manger un petit morceau. Et ensuite, on va se faire payer auprès du producteur. C'est-à-dire que c'est là où on sort la facture et là où il y a négociation.
Il y a négociation.
Il y a négociation régulièrement.
D'accord. Moi, je pensais, il y a la facture, ok, je paye. Le producteur a toujours trouvé un truc qui, et puis toujours un truc qui va pas, je pense.
On n'a pas beaucoup de billets vendus ce soir, ou t'as vu, il y a une bonne vente, donc tu gagnes beaucoup d'argent, donc il faut que tu négocies un petit. Voilà. Il y a une négociation tout le temps. Et on est payé au cul du camion, comme on dit dans le métier. C'est-à-dire que le soir même, chacun a son chèque. La SACEM a son chèque, la salle a son chèque, le prestataire X a son chèque. C'est une habitude dans le métier. Tout le monde est payé le soir même.
Alors. Pour le grand public qui nous écoute, la SACEM, vous pouvez nous expliquer un petit peu leur rôle?
C'est les droits d'auteur, hein, c'est-à-dire que la personne qui a... Je pense que
En tant que compositeur, c'est les droits d'auteur des compositeurs et interprètes... auteurs-compositeurs, pardon.
Et producteurs, je crois.
Et producteurs aussi.
Ouais, le droit SACEM représente environ 8% d'un billet. Quand vous achetez un billet de spectacle, la SACEM va prendre 8% et elle va reverser une partie de ces 8% à l'artiste. Et ça, c'est aussi une perte de rémunération pour les artistes, parce que depuis qu'ils n'ont pas joué depuis 2020, les droits d'auteur, ils ne sont pas tombés. C'est-à-dire que ce sont vraiment des recettes importantes qu'ils n'ont pas eues dans leur escarcelle. Hein.
C'est ça, parce que nous, on déclare, en tant qu'artiste, on déclare le programme musical également qu'on joue, et ça nous permet de toucher justement des droits d'auteur de la SACEM.
Dans une salle comme le Zénith de Strasbourg Europe, vous êtes contacté par les tourneurs ou c'est vous qui allez les démarcher ?
Les deux. C'est vraiment les deux. C'est la relation qu'on entretient avec les producteurs. Des rendez-vous que l'on organise à Paris. C'est des rencontres professionnelles où on croise les gens et on dit tiens, j'ai pensé à toi pour ça ou ça. Ou un bruit, un artiste qu'on commence à voir à la télé, on dit tiens, lui, sans doute, il prépare une tournée, je vais appeler le producteur. Enfin voilà, c'est vraiment de tout. Et c'est le réseau professionnel qu'on s'est constitué. Hein. Moi, ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis dans le métier, donc on connaît un peu de monde.
Vous avez à côté de vous, Sylvie, un artiste qui chante en France et en Allemagne. L'Allemagne, c'est un gros terrain de concurrence pour votre Zénith.
Sur des spectacles très particuliers, très ciblés, du métal par exemple. Alors quand on fait Rammstein, effectivement, on a beaucoup d'Allemands, mais si vous programmez Patrick Bruel, ils vont pas venir, les Allemands, ils connaissent pas.
Non.
Johnny Hallyday, ils connaissaient pas non plus.
Vous aviez déjà programmé il y a quelques années Hélène Fischer, par exemple.
Hélène Fischer, on a fait un carton, ouais, effectivement. Ouais.
Ça attire les Allemands et du coup les Alsaciens aussi. Ouais.
J'ai déjà eu aussi un spectacle, c'était Woodkid, c'était j'ai oublié le nom. Les Allemands nous ont demandé d'arrêter de vendre de billets parce qu'on était un poil moins cher sur la billetterie que le show.
Ah, c'est ce
et donc on nous a demandé d'un
c'était peut-être Hélène Fischer.
Peut-être, ouais.
Elle était à Stuttgart le lendemain.
Est-ce qu'il y a des spectacles où vous avez des surprises? Soit très agréable, où il y a beaucoup plus de billets vendus que prévu, puis à côté de ça, des spectacles, vous vous dites, celui-là, on va cartonner, et finalement, il n'y a rien.
Non, ça, on est très proche des ventes, on a vraiment les informations toutes les semaines, et plus on approche de la date, on a les scores au jour le jour, donc les devis, un producteur peut très bien nous avoir demandé un contrat sur une jauge à 3000, et finalement, il va finir à 8000, ou alors il va finir qu'à 1500, et donc on ajuste le devis à une semaine, et on embauche les équipes en fonction aussi, on ne va pas facturer au producteur 50 mecs de sécurité, alors que 25 suffisait. Il n'y a pas de surprise.
Il n'y a jamais de véritable surprise, sauf cette Covid.
Oui.
Voilà, qui a surpris
tout le monde. Pour tout le monde.
Voilà.
Alors, une question à tous les deux. Les bons et les mauvais côtés de ce métier. Voilà, c'est un bon, un mauvais. Sylvie, qui vous vient comme ça, tout de suite.
Un bon, c'est moi j'adore voir la salle vibrer lorsqu'il y a un spectacle et que le public prend son pied. Moi, ça me fait hérisser le poil. Je suis contente d'avoir proposé et permis au public qui vibre, de prendre son pied dans la salle. Les mauvais, c'est quand on a du mal à se faire payer. Ça c'est désagréable parce que je suis la méchante et voilà. Et ça, voilà.
Est-ce que ça arrive souvent avec les mêmes? Sans donner de nom, hein, encore que.
Les gros producteurs, on n'a pas de soucis. C'est souvent un petit producteur qui s'est lancé dans une opération et qui couvre pas ses frais. Et donc là, ça m'est déjà arrivé de ne pas accorder, de fermer la salle, de ne pas donner le top pour démonter la salle tant qu'on n'avait pas un chèque.
Et pour moi, les bons et les mauvais. Les bons, je dirais, quand on monte sur scène et que le public qui chante avec les chansons, c'est que c'est un succès. Ouais. Et ça, ça fait vraiment très plaisir. Et puis, développer, pareil, ses fans, etc. On est très proches, finalement. Et avec le Covid, je dirais que c'était même encore... la Covid, pardon. C'était encore plus proche parce que, finalement, on était beaucoup plus actifs sur les réseaux et ça a permis de créer un lien et tisser un lien. Et après, les mauvais, je dirais qu'il y en a pas beaucoup parce que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de rencontres avec beaucoup de gens, donc ça j'aime bien. En mauvais, je dirais ce qui est peut-être un peu négatif entre guillemets, c'est l'attente. C'est vrai qu'en tant qu'artiste, on est souvent dans l'attente avant de monter sur scène et après. Donc c'est vrai que des fois le temps est un peu long, mais on s'y fait.
Ah bah tiens, justement, on va parler d'attente parce que je pense que toi aussi, Emmanuel, ça t'est arrivé lors d'un concert qui doit démarrer à 21h et puis il démarre à 21h47 exactement.
Oui, alors ça peut être pire avec Guns N' Roses ou Madonna de mémoire où là, c'est concert à 21h qui débute vers minuit et demi.
D'accord. C'est quoi ces retards, Sylvie? C'est quoi ces retards?
Alors, c'est pas à cause de la salle, c'est pas à cause des salles en France. C'est vraiment l'artiste qui décale sa montée sur scène parce qu'il est pas bien, parce qu'il est pas prêt, parce que voilà. Mais si on nous dit, nous, salle, le plateau doit être prêt à 20h, il est prêt à 20h. On est prêt à recevoir l'artiste. Après, c'est l'artiste qui est dans la loge et qui traîne un peu pour X raisons qu'on ne connaît pas. Et malheureusement, c'est vrai que c'est extrêmement désagréable.
Et vous n'avez aucun poids là-dessus.
Aucun pouvoir. Et surtout, ce qui est vraiment désagréable, c'est que le public, le lendemain, il va insulter la salle. Alors qu'on explique que c'est la production, c'est l'artiste, c'est la cause de la... C'est, voilà, c'est l'artiste en cause, quoi. Donc, il peut arriver en retard aussi. Hein.
En toute franchise, alors, ça vous est déjà arrivé justement de commencer votre concert un petit peu avec du retard ou même un petit peu beaucoup?
Je dirais non. Alors c'est vrai que nous on est plus sur le système allemand, donc c'est assez timé en Allemagne.
Ah, la sinante, donc.
Les émissions télé, etc. 16h40 c'est maquillage, 50 c'est le repassage, enfin tout est assez calibré et puis il y a une personne vraiment qui nous accompagne en fait en tant qu'artiste, qui nous dit voilà maintenant faut que t'ailles là, faut que t'ailles là. Donc c'est très rare. Alors ça peut arriver, on va dire, si y a eu un problème technique où finalement on est plusieurs artistes sur scène et puis il y a une fréquence de micro vite à corriger ou mais c'est hyper rare. Là on
un coup de stress dans la loge, un coup voilà, un coup de doute qui fait oula, je vais attendre un quart d'heure.
Non, généralement une fois que c'est parti, on y va, on fonce. Et puis il y a la speaker ou le speaker qui annonce du coup l'ouverture du concert et puis on y va, quoi. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir du retard dans le programme quand on prévoit, il y a plusieurs artistes sur un plateau, chacun à 20 minutes. 20 minutes, c'est court en même temps. Donc, c'est vrai.
S'il y en a un qui fait 22 minutes et le deuxième 23, ça décale, ça décale.
Et ça, on l'a eu, c'est vrai.
Je me souviens de Joe Star, parce que j'étais aux Eurockéennes avant d'arriver aux Zénith de Strasbourg. Et je me souviens d'un Joe Star qui était perdu dans la campagne aux Eurockéennes.
Aïe.
Et qui était en retard de 20 minutes. Et donc, Coulchen a tenu le public, hein, il a fait ce qu'il fallait. Joe Star est sorti de la voiture dans le backstage. Il s'est mis en caleçon derrière la voiture, derrière le coffre. Il a pris le costume et il est monté sur scène comme une fusée. Il a crié, enfin, il a fait son cri habituel. Mais voilà, ça, c'est
alors, j'ai un autre souvenir aux Eurockéennes. Alors, c'est il y a très longtemps, peut-être vous n'y étiez-vous pas encore, c'était Slayer. Qui devait se produire sur la grande scène et eux ils étaient pris dans un embouteillage malheureusement et il y avait justement les Eurockéennes qui annonçaient les légendes du trash sont là. Alors ce qui était terrible parce que le public s'est dit avec cette attente, un public qui n'était pas venu pour eux s'est approché puis dès les 2-3 premiers Larsen, les gens ont compris que c'était pas forcément leur concert. Donc ça a été une ambiance assez drôle. Moi ça m'amène une question, vous allez pouvoir répondre tous les deux. La demande la plus insolite, la plus what the fuck comme on dit dans ces cas-là, qui a pu vous être faite? Sylvie.
Une salle de bain carrelée au backstage des Eurockéennes par James Brown.
Mais salle de bain carrelée. Et vous, Tom, un producteur ou un organisateur
C'est plutôt les fans qui demandent.
Bon, on va pas parler des jeunes femmes qui vous demandent votre téléphone.
Non, pas du tout.
Il y en a.
Mais du privé, oui, pour du privé, quoi. Mais c'est vrai que j'aime pas trop mélanger le privé de l'artistique.
Et donc en artistique, il y a eu des gens qui ont eu des exigences envers vous? Non, rien de spécial.
Alors là, comme ça, à chaud, non, rien de spécial.
Oh là là, mais c'est extraordinaire. Hein, avec Tom, rien.
Voilà. Bon, à mon avis, il y en a une qui va vous faire des demandes tout à l'heure dès qu'on aura quitté le studio. On va vous remercier tous les deux infiniment d'avoir attaqué cette nouvelle saison dont s'emploie pour vous le podcast des Juniors d'Alsace en notre compagnie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux pour les mois à venir?
Que le public revienne, enfin dans les salles de spectacle, c'est la meilleure des choses.
Alors justement, Sylvie, donnez-nous là le programme là des 15 prochains jours ou du prochain mois. Alors on sait Christophe Maé
dimanche. Hans Zimmer lundi. Ensuite, on fait un beau salon de la gastronomie et du vin. Le week-end fin septembre, début octobre. Et ensuite, on a Francis Cabrel, Woodkid, Slimane Evita, Florent Pagny. J'en oublie, mais regardez le site du Zénith. Le site internet du Zénith, il est à jour.
Et Tom?
Moi, j'espère vraiment qu'on retrouve cette liberté déjà au concert aussi, sans les masques, et, avec bonheur et plaisir. Et puis que tout revient à nouveau dans les programmations, etc. Donc il y a quelques dates de concert encore pour cette année. Le 9 octobre, je serai de nouveau à Montsfiller aussi. Puis une petite tournée de Noël. Et puis pour l'instant, on commence tout doucement à retrouver un peu les tournées de l'année prochaine avec une trentaine de dates.
Et l'album.
Donc l'album qui devrait sortir aussi début d'année pour ensuite pouvoir faire de nouveau une promotion dans les radios et les télés en Allemagne, en Alsace et en Suisse aussi.
Voilà, et pourquoi pas un Zénith, vous en discuterez avec Sylvie hors antenne.
Ce serait un beau projet.
Voilà, et nous au Zénith mais dans les gradins.
Alors, merci Emmanuel, c'était vraiment un chouette podcast. Ouais. Là, on s'est vraiment régalé, j'ai appris plein de choses.
Oui, pareil.
Et surtout sur toi.
Ah bon?
Tes goûts musicaux extraordinaires.
Oh bon, c'est simple. Mes goûts musicaux, ils sont très simples.
Merci à tous les deux.
Merci à vous.
À très vite. Au revoir.
À bientôt.